Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à l'Asie, ou tout au moins une partie de cette Asie, celle du Sud-Est. Un certain nombre de pays de la région sont régulièrement évoqués dans la presse occidentale, Thaïlande, Malaisie, Philippines, au gré des repositionnements politiques de ces pays. La démocratie en Asie du Sud-Est et la place tenue par la Chine dans l'évolution politique de la région. En d'autres termes, pourquoi le modèle chinois inspire-t-il les pays d'Asie du Sud-Est? Quelle part l'essor économique de Pékin joue-t-il dans ce processus? Est-ce la capacité de l'État parti chinois a donné à près d'un milliard et demi d'hommes et de femmes l'espoir de sortir de la pauvreté, eux ou leurs enfants, qui en fait, aux yeux d'une partie significative de l'humanité, un modèle aussi valable, voire davantage que celui de nos démocraties. Nos invités, les co-auteurs d'une étude intitulée « L'Asie du Sud-Est et la tentation autoritaire, l'impact du modèle chinois », Sophie Boisseau-Durocher, chercheure associée au Centre Asie de l'IFRI, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Dubois-Deprisque, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Bonjour.
Bonjour.
Avant même de parler de l'Asie du Sud-Est, parlons plus généralement de l'Asie, où la question de la démocratie revêt une certaine complexité, on va dire. On y voit certains pays s'être démocratisés pour être acceptés, entre guillemets, par l'Occident. D'autres tourner le dos à la démocratie, choisir la mise en place de régimes autoritaires afin d'accompagner le développement économique. On pense à Taïwan, la Corée du Sud, Singapour. La relation entre monde économique et monde politique a-t-elle une spécificité en Asie? Est-ce qu'il existe une culture politique propre à ce continent qui vaudrait mieux pour lui que celle de l'Occident? Emmanuel Dubois-Deprisque.
C'est une question qui est un petit peu vaste et difficile. On a peut-être ce qu'on peut remarquer, c'est le retour de cette question. Dans les années 90, il y a eu un débat sur les valeurs asiatiques qui avait été lancé par Lee Kuan Yew, donc le leader singapourien. Après la crise asiatique, ce débat avait un petit peu disparu. On peut constater qu'avec l'émergence de la Chine, certaines synergies apparaissent, qu'on a essayé de caractériser dans cette étude. Elles sont inscrites dans une histoire qu'on pourrait appeler asiatique. C'est un petit peu compliqué puisque l'Asie est très diverse. Mais on peut constater malgré tout que ce qui se passe aujourd'hui en Chine, la forme que prend le pouvoir, notamment le pouvoir exécutif et économique chinois, exerce un attrait sur certains pays d'Asie du Sud-Est. Donc on en a désigné trois, donc qui sont la Thaïlande,
la Malaisie
et les Philippines. De là à conclure qu'il y aurait quelque chose comme un modèle asiatique ou des valeurs asiatiques vraiment communes à toute la région, ça serait très présomptueux. Mais on peut constater que des synergies apparaissent.
Sophie Boisseau-Durocher, vous partagez ce que vient de dire Emmanuel Dubois-Deprisque. Finalement, Emmanuel évoque la notion de développement chinois, bien évidemment. Mais tout ça, finalement, il y a une conjonction d'événements. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la crise de 1997. Il y a eu les événements de 2001, les attentats contre les tours aux États-Unis à New York. Et puis enfin, la crise de 2008. Donc finalement, il y a une espèce d'attraction d'un côté et puis d'orientation par défaut.
Alors oui et non. Alors il faut replacer tout ça quand même dans une perspective historique. On a depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale une Asie qui a été divisée d'une part entre des pays communistes et notamment la Chine qui s'érigeait en modèle et puis d'autre part en pays pro-américains ou en tout cas soutenus par les États-Unis et qui ont développé dans un premier temps un autoritarisme développementaliste, ce qu'on a appelé un autoritarisme développementaliste, c'est-à-dire des États forts, généralement soutenus par des régimes militaires et qui ont éventuellement évolué vers quelques formes démocratiques. Et donc, on aurait pu penser que cette transition allait se confirmer. On l'a pensé d'ailleurs en 97 au moment de cette très grave crise asiatique. Et puis, on se rend compte avec le recul des 20 dernières années que finalement, cette crise de 97 n'a pas été mise à profit par les pays occidentaux pour accélérer la transition, mais a au contraire été mise à profit par la Chine pour d'abord tendre une main, je dirais presque salvatrice, aux pays d'Asie du Sud-Est afin de faire repartir les machines économiques et ce faisant à se présenter comme un modèle alternatif qui avait de l'intérêt pour eux. Et aujourd'hui, on arrive, si vous voulez, à maturation de ce processus et effectivement, la Chine présente un modèle qui semble crédible ou en tout cas prometteur pour ces pays, alors que dans le même temps, les crises qu'ont connues les pays occidentaux en 2007-2008 et puis aujourd'hui la crise européenne ou même l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis laissent planer un doute sévère sur la valeur de ce modèle démocratique. Donc, si vous voulez, on a des convergences qui s'appuient sur d'autres processus, hein, notamment des processus économiques, on va revenir dessus. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui une convergence pour s'interroger sur la validité de ce modèle chinois que Emmanuel a bien expliqué dans la première partie de l'étude.
Alors, si on poursuit, et probablement qu'on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission à nouveau sur les États-Unis et Donald Trump, le prédécesseur de Donald Trump, Barack Obama, avait fait de l'Asie une priorité pour les États-Unis. Ce qu'évoque là Sophie Boisseau-Durocher, Emmanuel Dubois-Deprise, finalement, est-ce que les Occidentaux n'ont pas su ou n'ont pas pu, face à la Chine, maintenir un certain ascendant sur l'Asie?
Parlons des États-Unis parce que ce sont essentiellement les États-Unis qui aujourd'hui exercent un rôle prépondérant en Asie. Je pense qu'il y a eu une volonté américaine à un moment donné de répondre à une demande en fait de nombreux pays asiatiques. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines et notamment les domaines économiques, si on parle en termes d'infrastructures par exemple, c'est plutôt la Chine qui a des choses à proposer à ces pays-là que les États-Unis. Alors il y a une demande dans un certain nombre de pays de présence américaine. Mais paradoxalement, il y a aussi une offre chinoise qui, notamment à l'égard des élites, peut être très très attrayante pour ces élites. Donc c'est un petit peu ambigu parce que il faut voir que ces pays-là sont tiraillés donc entre la Chine et les États-Unis d'une part. Certains pays n'ont pas du tout envie d'être réduits à un face-à-face avec une Chine ultra puissante.
Quelques exemples de ces pays.
Les Philippines avant Duterte, bien sûr. Singapour aujourd'hui, on voit que les relations entre Singapour et la Chine se dégrade de façon relativement rapide et un petit peu étonnante d'ailleurs. Singapour vient d'expulser un universitaire chinois qui était là depuis très longtemps, tout à fait influent, et a donc décidé de lui demander de rentrer, de quitter le territoire singapourien parce qu'il relayait en gros la parole de Pékin. Donc on voit que les relations entre certains pays d'Asie du Sud-Est et la Chine ne sont pas simples, bien sûr. Mais d'un autre côté, pour certains pouvoirs qui eux-mêmes connaissent des difficultés au niveau intérieur, souvent, l'attrait du modèle chinois est évident, c'est-à-dire le fait de plus avoir à faire face à une opposition qui en permanence peut empoisonner la scène politique. Évidemment, je cautionne pas le régime autoritaire en disant ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut exercer un attrait aussi important. Donc il y a disons une ambiguïté entre d'une part une demande de présence américaine et d'autre part un attrait exercé par le modèle chinois.
Alors juste, et on en terminera sur cette question, Sophie Boisseau-Durocher, finalement l'arrivée de Trump et l'abandon des grands projets commerciaux pacifiques, c'est encore une pierre de plus en faveur de la Chine finalement.
Alors le TPP auquel vous faites référence suscitait quelques doutes quand même, hein, parce que le projet Obama était un énorme projet qui touchait non seulement la partie commerciale mais également les structures, je dirais, de ces États avec la mise en œuvre d'États de droit, etc. Donc il y avait des pans de ce projet TPP, Trans-Pacific Partnership, qui suscitait un véritable doute, notamment par exemple au Vietnam. On se demandait comment rendre compatible la nature communiste du régime et l'ouverture économique débridée. Donc voilà, mais effectivement le doute s'est renforcé depuis Trump, et quand Trump a été élu, les experts se disaient que c'était vraiment du pain béni pour les Chinois, parce que effectivement ce côté très impulsif, très flamboyant, très comment dire, déplaît fortement aux dirigeants asiatiques, qui préfèrent évidemment agir dans la discrétion. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que ces convergences politiques aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que depuis effectivement cette crise de 97, où les pays d'Asie ont été très fortement critiqué par les pays occidentaux qui jusque-là avaient quand même largement soutenu leur développement et profité de leur développement, donc une distanciation vis-à-vis des pays occidentaux. Mais cette crise a été mise à profit, comme je le disais, par la Chine, pour, si vous voulez, se présenter comme le partenaire de choix. C'est un partenaire de choix de facto, car si vous regardez une carte, vous avez quand même trois pays d'Asie du Sud-Est qui ont des frontières directes avec avec la Chine, et cinq si vous considérez que les frontières maritimes sont également des frontières directes avec la Chine. Donc, si vous voulez, on a là une région qui est de toute façon accrochée, qu'elle le veuille ou pas, à l'espace, à la dynamique chinoise, à cette gigantesque dynamique chinoise. Donc il y a, si vous voulez, des effets de répercussion naturels qui en plus ont été exploités par les entreprises chinoises, par le pouvoir chinois, et aujourd'hui ce n'est pas un hasard que la Chine soit le premier partenaire commercial des pays d'Asie du Sud-Est et devient aujourd'hui un partenaire financier de plus en plus important. Donc si vous voulez, ces rapprochements et la Chine insiste énormément sur la communauté de destin entre l'Asie du Sud-Est et la Chine. Ces rapprochements se fondent sur des relations très concrètes qui sont alimentées quotidiennement par des communautés d'affaires, des communautés académiques, des communautés politiques, et il y a aujourd'hui une densité de relations entre les deux régions qui effectivement alimente ces convergences politiques.
Alors, communauté de destin, évidemment, Emmanuel Dubois de Prisque, la Chine ne peut que se réjouir de ces évolutions autocratiques d'un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est. Et finalement, quel rôle joue la personnalité du président chinois dans ce processus? Comment a-t-il fait évoluer le modèle chinois?
Alors, il est vrai que au moment où Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2012-2013, peu de gens avaient anticipé en fait une telle personnalisation du pouvoir. On s'était fait à l'idée que à la suite donc de des réformes entamées par Deng Xiaoping en Chine, on avait un pouvoir collectif, donc un pouvoir fondé sur le consensus, avec aucune personnalité qui, au sein du Politburo, du comité permanent du Politburo, émergeait. Le prédécesseur de Xi Jinping, Hu Jintao, était une personnalité discrète, qui paraissait redouter à chaque instant de commettre un impair, qui était très contrainte. Alors on a vu arriver quelqu'un de tout à fait différent avec Xi Jinping, qui incarne le pouvoir, qui incarne la Chine en fait, et qui incarne d'une certaine façon aussi une alternative peut-être à l'Occident, au sens où aujourd'hui, sur la scène internationale, pour un leader d'un pays d'Asie du Sud-Est, il est peut-être plus attrayant de ressembler à Xi Jinping que de ressembler à Trump. Il y a des choses aussi simples que ça peut-être qui peuvent jouer aussi, parce que on est quand même dans un cadre qui est tout à fait étonnant. Il y avait une forme de, si je peux me permettre d'ajouter ça, il y avait une forme d'évidence dans le développement, le modèle de développement qu'on proposait aux pays en voie de développement en général, c'est-à-dire que la démocratie, les réformes politiques allaient avec les réformes économiques. Et en fait, ce lien évident aujourd'hui n'existe plus. C'est-à-dire que ces pays-là voit que la Chine parvient à conserver des taux de croissance qui sont relativement confortables. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes dans le système économique chinois. Il ne s'agit pas de les nier ou de considérer que tout va bien en Chine, mais l'évidence aujourd'hui, selon laquelle il y avait un lien entre le développement économique et les réformes politiques et la démocratisation, donc ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays d'Asie, la Corée du Sud, Taïwan, d'autres encore, cette évidence-là, elle n'existe plus. Et au contraire, on voit les pays asiatiques et sud-est asiatiques notamment ne peuvent que constater la crise dans laquelle s'enfoncent nombre de démocraties occidentales, pas seulement les États-Unis, et peuvent facilement, dans les échanges qu'ils peuvent avoir avec un certain nombre de pays, défendre l'idée selon laquelle pour eux, pour leur pays, pour le monde dans son ensemble, un système autoritaire n'est pas moins efficace, n'est pas moins légitime au fond que le système démocratique dans lequel on se trouve. Bon, c'est
Alors, vous abordiez les trois pays essentiellement concernés par ce processus, on peut les rappeler, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de pays peut-être moins importants économiquement et en termes de superficie? On pense notamment au Vietnam, au Laos. Est-ce qu'il y a un phénomène de contagion qui est à attendre? Et avant cela, peut-être, Sophie Boisseau-Durocher, est-ce qu'il y a finalement une homogénéité dans la lecture de l'évolution politique des pays que vous mentionnez, Thaïlande, Philippines et Malaisie?
Alors non, évidemment, il n'y a pas d'homogénéité et l'Asie du Sud-Est se caractérise précisément par sa diversité et je dirais par des déclinaisons propres de phénomènes similaires. Mmh. C'est-à-dire que chacun décline différemment des influences à peu près identiques. Alors il est évident que cette Chine décomplexée avec Xi Jinping avait d'abord mis l'accent sur les pays les plus faibles et je dirais que le premier pays à être véritablement tombé dans le giron chinois, ça a été le Cambodge, un pays qui est complètement soutenu par la communauté internationale et qui aujourd'hui est de plus en plus tributaire de l'aide et des financements chinois. Donc si vous voulez, le régime de Hun Sen à Phnom Penh est un régime qui aujourd'hui est notamment tient debout parce que il est entretenu par une dynamique extérieure elle-même générée par les flux chinois. Donc et on se souvient qu'en 2012 lors d'une réunion de l'ASEAN qui se tenait à Phnom Penh au Cambodge, l'ASEAN n'avait pas signé de déclaration commune parce qu'il n'y avait pas d'accord sur la question de la mer de Chine du Sud et on a analysé cette absence de déclaration commune comme une manœuvre chinoise auprès des autorités cambodgiennes pour qu'il n'y ait pas de déclaration contraire aux intérêts chinois. Donc voilà, il y a là effectivement des risques. Le Laos est également un pays particulièrement fragile à ses influences. Par contre, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous. Le Vietnam est un pays qui est très ambigu, hein, qui résiste. D'abord parce que ça a été une province chinoise et puis parce qu'il y a une relation très complexe aux grands voisins, à la fois de la part du Parti communiste, hein, qui est quand même le meilleur relais des intérêts chinois au Vietnam, mais également une résistance de la population qui a une identité très forte et qui s'est construite également sur la résistance à la Chine. Donc le Vietnam est quand même un pays à part. Alors après, il y a eu effectivement, je dirais, la Thaïlande et la Malaisie ont été repérés comme deux pays faibles. La Thaïlande, parce qu'elle est dans une crise récurrente depuis le début des années 2000, et puis qu'il y a des liens très particuliers. Mmh. On n'a pas du tout parlé de ça, mais il y a une histoire familiale entre certains pays et la Chine, et notamment la Thaïlande entretient, et la monarchie thaïlandaise entretient une relation très spécifique avec la Chine. La famille royale va régulièrement à Pékin et c'est, si vous voulez, sur ces connivences-là que la Chine a pu progressivement étendre ses relais. Alors, il faut voir par ailleurs que les communautés chinoises, notamment sino-thaï, sino-malaisienne ou sino-philippine, jouent un rôle déterminant pour défendre souvent la voix de Pékin. Je vous donne un exemple très concret. Le fameux projet de l'isthme de Kra, vous savez, qui est cet isthme qui doit traverser la Thaïlande et qui permettrait effectivement aux navires qui arriveraient de l'océan Indien de ne plus avoir à passer par le détroit de Malacca. Le fameux isthme de Kra est aujourd'hui remis sur le devant de la scène. Les Chinois financeraient ce gigantesque projet qui est évalué à près de 30 milliards de dollars. Et aujourd'hui, les promoteurs de ce projet en Thaïlande sont des associations sino-thaï qui effectivement vantent les avantages de ce projet auprès du général Prayut, le premier ministre. Donc si vous voulez, on voit là que le rayonnement chinois s'appuie sur une histoire, sur des liens historiques, sur des communautés communautés d'affaires et des communautés chinoises, des diasporas qui sont très bien implantées et qui, quand il s'agit de faire basculer la décision dans un sens favorable aux intérêts de Pékin, ils agissent de façon très efficace.
On poursuivra sur le rayonnement chinois dans la deuxième partie de l'émission. Nous retrouvons nos invités Sophie Boisseau-Durocher et Emmanuel Dubois de Prisque dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Asie du Sud-Est, la tentation autoritaire et l'impact du modèle chinois. Nous retrouvons nos invités. Sophie Boisseau-Durocher, chercheur associé au Centre Asie de l'IFRI, spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Et Emmanuel Dubois de Prisque, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Sophie Boisseau-Durocher évoquait de la première partie de l'émission la notion de rayonnement du modèle chinois. Emmanuel Dubois de Prisque, qu'est-ce que l'on peut dire finalement des caractéristiques et de l'impact du modèle chinois sur les pays d'Asie du Sud-Est?
Le rayonnement du système chinois, c'est vrai, ça peut paraître un peu contre-intuitif, parce qu'il y a certains aspects qui, du point de vue des démocraties occidentales, peuvent paraître assez rébarbatifs. On peut en citer quelques-uns de ces aspects, mais du point de vue des pouvoirs des pays d'Asie du Sud-Est, peut-être que ces aspects sont attrayants. Le premier aspect, c'est une forme de confusion des pouvoirs, justement, je dirais. Confusion des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. En Chine, c'est tout à fait clair. Le pouvoir judiciaire a affirmé par la voix du président de la Cour suprême que aujourd'hui il était au service du Parti communiste, qu'il était au service du pouvoir exécutif et que il n'était pas question d'intégrer dans la culture politique chinoise les principes de séparation des pouvoirs qui sont un poison occidental de leur point de vue. Le deuxième aspect sur lequel il faudra insister, c'est le Parti communiste chinois qui se prend pour le tout, qui incarne la Chine elle-même. Donc qu'est-ce que l'opposition dans ce cadre-là? Que devient l'opposition? Le troisième aspect, c'est un pouvoir exécutif fort, qui est donc à la mainmise sur l'économie et qui le revendique. Il y a un plan en Chine dont les mots d'ordre sont respectés par les entreprises, respectés, plus ou moins respectés bien sûr, mais en tout cas, les grandes entreprises sont obligées de montrer patte blanche et peuvent pas décider de leur stratégie en dehors du cadre politique. Un autre aspect, c'est l'emprise sur les médias, qui est quand même absolument important. Les médias sont au service du pouvoir. Et un dernier aspect, peut-être qui paraîtra un peu cynique, mais qui me semble très important, c'est la capacité de désigner des boucs émissaires. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif est en mesure de trouver des relais au sein des médias ou ailleurs pour désigner les personnes que la population peut légitimement détester. Alors que si on constate ce qui se passe aujourd'hui en Occident, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire c'est le pouvoir exécutif lui-même. Bon, Donald Trump, c'est un exemple évident, mais qui se retrouve être, d'une certaine façon, le bouc émissaire de sa propre population. Donc, c'est pas vraiment attrayant pour les pays d'Asie du Sud-Est, l'idée de se retrouver livré à la vindicte de sa propre population. Donald Trump, mais François Hollande, en fin de mandat, c'était pas tellement différent. Voilà, ces caractéristiques-là, si on regarde ce qui se passe dans certains pays d'Asie du Sud-Est, on peut constater que ce sont des caractéristiques que l'on retrouve.
Mais qui se mettent en place de quelle façon, Sophie Boisseau-Durocher? L'histoire de ces pays est évidemment différente, ne serait-ce que par rapport à l'histoire de la Chine. Alors, verrouillage du système politique, contrôle de l'opposition, des médias, de l'information, ça se passe comment?
Alors, ça se passe différemment, suivant chacun des pays, évidemment. Hein. On insiste toujours sur la diversité des déclinaisons, mais néanmoins, ce qui nous a semblé précisément intéressant, c'est de voir qu'il y avait des tendances similaires dans chacun des trois pays que nous avions sélectionnés. Prenons l'exemple de la Malaisie. La Malaisie a subi un espèce de raidissement autoritaire depuis quelques années. Et au fond, on se rend compte que le Premier ministre, Najib Razak, au pouvoir depuis 2009, a mis en place un système qui se base sur un parti ou une coalition de partis unique, qui est au pouvoir d'ailleurs depuis plus de 50 ans, depuis l'indépendance, l'UMNO, et puis qui aujourd'hui est contesté parce qu'il a mis en place un système de corruption excessivement sophistiqué. Il est contesté et donc pour se défendre, eh bien il réprime. Il réprime à la fois des opposants politiques, mais il réprime également la population. Il empêche des manifestations. Il contrôle les médias et donc aujourd'hui sa planche de salut se trouve en fait dans la main tendue que lui propose Pékin. Et c'est vraiment très intéressant. 1900, un scandale d'une ampleur importante le secoue depuis juillet 2015, depuis qu'un rapport du Wall Street Journal révèle un détournement de fonds massif à son profit. Hein. On parle de quand même de plus de 700 millions de dollars sur son compte personnel. Donc, il est tout à fait contesté et au fond, lui ne veut pas répondre aux critiques, ne veut pas avoir de compte à régler. On se trouve donc dans une situation d'opacité qui ressemble assez fort à ce qu'on peut retrouver en Chine. Et puis, la machine économique continue finalement à tourner grâce aux injections d'investissements chinois qui, aujourd'hui, sont les premiers partenaires de la Malaisie. En juin 2017, par exemple, la Chine a racheté la voiture nationale, la Proton, hein, qui est un symbole de l'industrie malaisienne. Et voilà une nouvelle étape dans ce contrôle discret des rouages économiques et politiques de la Malaisie par la Chine. Ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui l'ancien Premier ministre Mahathir, qui a plus de 90 ans, lancer une action avec son propre ancien ministre des Finances, Anwar Ibrahim, qui avait été très contesté et qui a été mis en prison en 2015 pour son fameux scandale de sodomie par le pouvoir en place, essayer de monter une alliance pour contrer ces tendances autocratiques de la part de Najib Razak. Donc là, on voit bien, si vous voulez, que se maintient cette dérive autoritaire et finalement complètement accréditée par Pékin. On pourrait retrouver exactement le même processus en Thaïlande où des membres de l'opposition, et je pense à Pongsad, je pense à Nopon Supipat, qui sont aujourd'hui obligés de quitter le pays parce qu'ils sont poursuivis de la vindicte de la junte au pouvoir depuis 2014.
Et qu'est-ce que l'on peut dire rapidement des Philippines ?
Alors les Philippines, c'est un cas intéressant parce que les Philippines, l'accession, si vous voulez, de Duterte au pouvoir, c'est d'abord quand même l'échec patent de l'influence américaine depuis 50 ans. C'est-à-dire que ça fait 50 ans que les Américains nous annoncent que la vitrine de la démocratie en Asie, c'est-à-dire les Philippines, vont véritablement rayonner et faire contagion sur le reste de la région, et où on se rend bien compte que au fond, les États-Unis n'ont pas grand intérêt à cette démocratie philippine, qu'ils ont soutenu au contraire une forme de féodalisme, et donc le résultat, c'est qu'une population qui est massive, hein, les Philippines sont aujourd'hui à 100 millions d'habitants, une population massive vote en faveur d'un dirigeant fortement contestable. Et donc là, la Chine rebondit évidemment. Hein. Si vous voulez, la Chine a eu l'intelligence de comprendre qu'il y avait là un rejet en fond de cette influence occidentale, de ces États-Unis qui prétendaient faire le bonheur des Philippins et instaurer la démocratie, alors qu'au fond, ils sophistiquaient ce régime féodal. Et donc Pékin a évidemment tendu une main. Quand on regarde une carte, les Philippines seraient un pion stratégique majeur pour les intérêts militaires chinois. Tout ça se fait à long terme, tout ça se fait par petits pas. Il faut bien comprendre que si la Chine bousculait les pays d'Asie du Sud-Est, elle générerait une résistance évidente. Elle agit au contraire par petits pas pour lever les réticences, lever des réserves et instaurer une relation de confiance, une communauté de destin, comme on le disait tout à l'heure.
Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Sophie Boisseau-Durocher, donc politique à long terme, stratégie des petits pas, et je me tourne vers vous, Emmanuel Dubois-Dauprisque. Finalement, sur ce registre de la communauté de destin, comment le projet de Belt and Road Initiative chinois s'inscrit dans cette perspective? C'est la route de la soie.
Oui, effectivement, l'idée qu'il y aurait un destin partagé entre tous les pays du monde, c'est une idée de Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir. C'est quand même intéressant de remarquer que la Chine est capable d'avoir un discours comme ça qui s'adresse à tous les pays du monde. Donc l'idée, parce qu'il y a une veine aussi très réaliste dans la politique étrangère chinoise, selon laquelle la politique étrangère est un jeu à somme nulle. Mais on constate, en tout cas dans le discours de Xi Jinping, que c'est un discours beaucoup plus lénifiant peut-être, qui s'adresse d'abord à ses voisins et qui s'est traduit effectivement en 2013 avec deux discours qui sont bien connus maintenant, l'un en Indonésie, l'autre au Kazakhstan, pour essayer de donner peut-être un vernis d'organisation surplombante à des initiatives des entreprises chinoise dans le domaine des infrastructures qui partait un petit peu dans tous les sens. Mmh. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient un petit peu spontanément de la part des entreprises d'État chinoises. Et on a trouvé un terme générique, donc nouvelle route de la soie, pour essayer de donner un semblant d'ordre à tout ça. Et c'est devenu finalement une initiative géostratégique majeure, une sorte de proposition que la Chine fait à ses voisins et qui effectivement oblige un petit peu tout le monde à se positionner par rapport à elle. Donc ça va pas sans résistance. Il y a eu des grands succès, notamment en Indonésie, où la Chine a réussi à supplanter le Japon pour un projet de train à grande vitesse, ce qui est quand même un grand succès, d'autant plus qu'il a été obtenu contre l'ennemi fondateur, disons, de la République populaire de Chine, qui est le Japon. Il y a d'autres succès en Asie centrale, mais il y a aussi de très fortes difficultés. Ce sont des régions, notamment en Asie centrale, où les problèmes sécuritaires sont très importants. Donc il y a une dimension sécuritaire que la Chine n'élude pas et qu'il lui faudra résoudre si elle veut espérer pouvoir mettre en place cette initiative d'un point de vue économique qui est essentielle pour elle, parce qu'il y a aujourd'hui de fortes capacités de production qui sont excédentaires et qui ont besoin d'être employées pour que la machine chinoise continue à tourner.
Et c'est là aussi que la Russie peut parfaitement intervenir et ne pas laisser les choses se faire aussi facilement que les Chinois le souhaiteraient.
Peut-être.
Sophie Boissé-Durocher.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Emmanuel, c'est que au fond, cette Belt and Road Initiative, c'est le déploiement, je dirais, mondial des intérêts chinois. Et on peut avoir intérêt à rentrer dans la danse. Hein,
donc et permettre à l'industrie chinoise de continuer de fonctionner,
et peut-être aussi à la nôtre, au demeurant. Mais ce qui est important, et le lien avec notre sujet, c'est que ce sont donc des investissements colossaux. Et donc le risque, la Chine perçoit comme un risque l'alternance démocratique. C'est-à-dire qu'un régime pourrait, à la faveur d'une élection, remettre en cause ces investissements. Et donc là, il y a un risque énorme pour Pékin. Et donc finalement, ce modèle autoritaire qui met de côté quand même le processus électoral sert les intérêts de Pékin. Quels que soient les moyens, l'important est de servir ses intérêts. On le voit précisément avec la Thaïlande, hein, où en juin 2017, pour mettre un coup d'accélérateur au projet de ligne ferroviaire Sino-Thaï, le Premier ministre Prayut s'est arrogé les pleins pouvoirs afin d'accélérer, si vous voulez, le processus et de permettre d'une part aux ingénieurs et architectes chinois de travailler sans l'obtention d'une licence accordée généralement aux professionnels étrangers ou de contourner les lois sur les marchés publics thaïlandais qui devraient être validées par un bureau spécifique. Donc, pour contourner tout ça, il s'est arrogé les pleins pouvoirs. C'est quelque chose, quand même, de très dangereux. Il y a là des risques de dérive autoritaire encore plus marqués qui devraient, quand même, nous alerter. Voilà, donc ça, c'est un exemple précis, je dirais, de convergence économico-politique qui servent les intérêts chinois et qui alimentent les dérives autoritaires au nom de ces intérêts.
Alors, si on va plus loin dans votre réflexion, Sophie Boissé-Durocher, c'était presque la question de conclusion, mais après ça, j'aimerais qu'on parle aussi de l'Inde, un peu rapidement. Mais finalement, étant donné le poids de l'Asie aujourd'hui, si le continent confirme son poids prépondérant dans les équilibres mondiaux, Emmanuel Dubois-Dupriest, que d'une certaine manière, et pour aller plus loin de ce que dit à l'instant Sophie Boissé-Durocher, il y a menace pour la démocratie dans le monde.
Je ne sais pas si on peut aller jusque-là aujourd'hui. En tout cas, on voit bien, donc si on veut étendre, sortir un petit peu du cadre strictement sud-asiatique, on voit bien qu'aujourd'hui, la Chine est en mesure. Parfois, on voit ce qui se passe en Australie, par exemple, où les étudiants chinois, souvent, sont capables de faire pression sur leurs professeurs pour que la vision correcte de l'histoire, de la géographie s'impose, donc correcte, selon la Chine s'impose. De là à dire que le modèle chinois est suffisamment attrayant pour remettre en cause la démocratie ou les valeurs démocratiques, j'irai pas jusque-là. Il y a une faiblesse, je pense, des régimes démocratiques occidentaux qui n'a pas besoin de la Chine pour s'exprimer. On voit bien qu'on est pris aujourd'hui dans des débats qui sont très complexes, puisque après tout, on parlait de Roberto Duterte, mais il a été élu. Mmh. C'est quelqu'un qui a été élu, c'est démocratiquement. Donald Trump a été élu démocratiquement. Le vocable de populisme, par exemple, essayent de saisir quelque chose qui se passe au sein des démocraties occidentales, tout ça, ça se passe d'une certaine façon en dehors de l'influence chinoise. Donc les problèmes qui proviennent de la démocratie occidentale elle-même sont suffisamment complexes. Alors peut-être que effectivement le fait que le régime autoritaire chinois jusqu'à présent paraisse relativement réussir, ça peut contribuer à fragiliser plus encore avec l'idée qu'il y aurait une solution alternative, une autre possibilité que la démocratie représentative occidentale qui s'est mise en place maintenant il y a quelques temps, qui pourrait paraître attrayante, mais ça reste quand même, à mon avis, périphérique et marginal dans les difficultés qu'on rencontre.
Sophie Boisseau-Durocher, vous partagez ?
Écoutez, oui, je partage évidemment. Je crois qu'il faut vraiment se méfier des raisonnements simplistes qui seraient de dire que bon, la démocratie est en danger parce que les intérêts chinois vont prédominer de plus en plus dans les flux mondiaux. Si les Chinois jouent une partie, entre guillemets, relativement facile en Asie du Sud-Est, mais qui n'est pas encore gagnée, les sociétés civiles sont aussi des sociétés qui réfléchissent et qui peuvent défendre des valeurs auxquelles elle croit, qui ne seront pas forcément nos valeurs démocratiques, mais d'autres valeurs. Je crois que cette faiblesse des régimes démocratiques tels que nous la connaissons, précisément, pourrait alimenter chez nous une réflexion nourrie sur ce que nous cherchons véritablement à défendre. Pour l'instant, nous avons peut-être eu une conception d'une exportation démocratique un peu mécanique, c'est-à-dire électorale, d'un processus électoral. La démocratie, c'est beaucoup plus que cela. C'est d'abord un état de droit. C'est un débat, c'est un échange, c'est un compromis. Donc voilà, je crois qu'il faut d'une part que nous réfléchissions de façon très très sérieuse à ce que nous voulons véritablement défendre. Et l'Europe, évidemment, là, a une carte importante à jouer. Ça, c'est le premier point. Et puis, d'autre part, les Chinois sont des gens très intelligents et ils vont obligatoirement aussi, mais d'abord ils ne sont pas à l'abri de crises intérieures, ça Emmanuel vient de l'évoquer, mais ils ne sont pas non plus à l'abri de mettre de l'eau dans leur vin, entre guillemets, c'est-à-dire d'accepter certains compromis au nom de la stabilité. Ce qui est sûr, c'est que l'universalité de la démocratie westminsterienne est aujourd'hui mise sur la sellette, mais ça peut être aussi une réflexion très propice pour nos propres structures.
Alors pour poursuivre sur la réflexion, ce sera peut-être la dernière question. On n'a pas parlé de l'Inde, Emmanuel Dubois de Prise, qui est l'autre puissance tutélaire de l'Asie et rivale à égalité ou pas de la Chine. Est-ce qu'elle peut jouer aussi une sorte de avoir ce rôle de frein face à l'expansion chinoise et à ce phénomène entre guillemets de contagion sur les régimes, la tentation autoritaire dans cette région.
Je suis pas du tout spécialiste de l'Inde, mais simplement sur le conflit que l'Inde et la Chine viennent de connaître, on peut constater qu'il n'arrive pas comme ça de nulle part, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a une opposition de régime politique. Plus que ça, je pense qu'effectivement, il y a une concurrence entre deux grandes puissances. On a vu que une des causes, disons, de la crise récente, donc sur les questions frontalières au Bhoutan et dans l'Himalaya, est lié justement à l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie et des relations qui existent entre la Chine et le Pakistan, puisque le Pakistan est un allié traditionnel et qui dépend beaucoup de la Chine. Et un des aspects donc des nouvelles routes de la soie, un des projets majeurs phares des nouvelles routes de la soie, c'est le corridor de Gwadar, donc qui reliera le Xinjiang au port pakistanais de Gwadar. Le projet passera par des régions qui sont revendiquées par l'Inde, et ça a été une des causes de la montée de tension, je pense, entre l'Inde et la Chine, qui est en train de se calmer. Donc effectivement, il y a une rivalité entre l'Inde et la Chine. Je ne sais pas si les différences de régime politique sont vraiment importantes, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudra regarder à l'avenir, bien sûr.
Merci. Sophie
Alain, le plus grande démocratie au monde, a évidemment un rôle important à jouer en Asie du Sud-Est et certainement apparaît comme un modèle alternatif intéressant.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Sophie Boisseau-Durocher, chercheure associée au Centre Asie de l'IFRI, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, Emmanuel Dubois-Deprisque, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Je rappelle le titre de votre étude toute récente, l'Asie du Sud-Est et la tentation autoritaire, l'impact du modèle chinois. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À très bientôt.